Vous écoutez Radio Campus Pau et il est l'heure de votre dernier épisode de votre émission Autoradio. C'est donc avec une émotion toute particulière que je vous retrouve une dernière fois dans le studio de Radio Campus Pau en compagnie de mon acolyte Erwan pour discuter de l'actualité des marques et des sports automobiles.
Salut à tous, c'est pour moi aussi une émission particulière car c'est certes la dernière, mais c'est surtout ma dernière sur Radio Campus Pau.
Alors terminons dignement en attaquant tout de suite sur l'actualité des marques et je te propose Erwan de revenir un petit peu dans le passé et plus précisément au début des années 2000. À cette époque, un petit peu comme à la fin des années 90, l'économie mondiale se porte plutôt bien et les constructeurs automobiles ont parfois des éclairs de fougue en nous proposant des véhicules totalement dingue. On se souvient par exemple de la Clio V6 commercialisée par Renault à partir de 2000. Pour les plus jeunes d'entre vous, c'était ni plus ni moins qu'une Clio 2 équipée d'un moteur V6 en position centrale. Mais figure-toi Erwan que d'autres concessionnaires ont eu l'idée de monter sur des compacts des moteurs V6. Et je parle notamment de la Volkswagen Golf 4 R32. En 2002, la marque allemande décide de mettre sur le marché une Golf un petit peu particulière. On était habitué au Golf GTI avec un moteur 4 cylindres entraînant les deux roues avant. Mais là, Volkswagen nous propose soudainement quelque chose de complètement inhabituel, c'est-à-dire un véhicule 4 roues motrices entraîné par un moteur V6, avec un look plus sobre et des performances incroyables pour une compacte. Cette voiture a eu un succès monumental. Lors de son entrée en commercialisation, seulement 5000 exemplaires étaient prévus, mais face au succès et au nombre important de commandes, Volkswagen a finalement produit 14 000 exemplaires de la Golf 4 R32. Alors face à ce succès, impossible d'arrêter la production là. Et en 2005, Volkswagen remet le couvert et nous sort une Golf 5 R32. La recette est la même, un moteur V6, 4 roues motrices et un châssis, cette fois-ci non pas de Golf 4, mais de Golf 5. Alors tu vas me dire Erwan, mais comment est-ce que Volkswagen a fait pour rentrer un moteur V6, qui est quand même un gros moteur, dans une compacte sans sacrifier les deux places arrière comme ce que Renault proposait sur sa Clio V6? Eh bien, pour ça, Volkswagen a conçu un moteur un petit peu particulier. Il s'agit bien d'un V6, mais d'un V6 relativement étroit. C'est-à-dire un moteur 6 cylindres, donc disposé en V, avec un angle de rangée très étroit d'environ 15 degrés, ce qui permet d'avoir un seul bloc et non pas deux comme on le retrouve traditionnellement sur les moteurs V6. Avec cette architecture particulière, on a donc bien un V6 qui est relativement compact, ce qui permet de le rentrer dans une Golf. Malheureusement, les normes anti-pollution et l'évolution du marché automobile ont mis fin à la folie de ces Golfs et la Golf 6 R32 ne verra jamais le jour. Et aujourd'hui, la Golf R32 voit sa cote complètement s'envoler. Et est-ce que tu sais à combien est-ce que l'on les échange aujourd'hui sur le marché, Erwan ?
Je sais pas, 20-30 000 euros.
Alors, en moyenne, oui, les Golf 5 R32 sont vendus entre 15 et 30 000 euros, mais ils se vendent de temps en temps des exemplaires pour beaucoup plus que ça. Et il y a quelques jours, une magnifique Golf 4 R32 qui avait à peine 90 km au compteur a trouvé acquéreur pour la modeste somme de pratiquement 100 000 euros. Pour changer de registre, je te propose d'aller cette fois-ci regarder du côté des berlines françaises, Erwan, puisque Peugeot a offert à sa berline phare, la 508, son restylage de mi-carrière. Alors il était temps, parce que cette voiture a tout de même été présentée en 2017 et n'avait toujours pas été restylée depuis. Ce restylage, il est relativement discret, mais la nouvelle 508 adopte malgré tout des codes esthétiques de sa grande sœur sportive qui court au Mans, en particulier avec les trois petites griffes qui vont très probablement devenir la nouvelle signature lumineuse de la marque au Lyon. Alors personnellement, j'avoue que j'aimais beaucoup la version actuelle et on va voir si le restylage plaît aux automobilistes et relance les ventes. Côté de l'actualité toujours, voici entre guillemets une bonne nouvelle pour les automobilistes, puisque bien que tu n'aies pas encore ton permis Erwan, tu n'es pas sans savoir que le prix du carburant a énormément augmenté ces derniers mois, passant allègrement la barre des 2 euros, notamment dans les stations Total. Eh bien, le gouvernement essaye de lutter contre la hausse massive du carburant et la France n'étant pas un pays exportateur de pétrole, ni même producteur, eh bien, il est difficile d'avoir une quelconque influence sur le prix du baril de pétrole. Cependant, au regard des records de bénéfices que le groupe Total a réalisé dernièrement, le président de la République a demandé au groupe de faire un effort pour essayer de limiter le prix au litre, et Total a fini par céder en annonçant il y a quelques jours le plafonnement de ses prix à 2 euros le litre jusqu'à la fin de l'année 2023. Alors cette mesure sera-t-elle utile ? Est-ce que les prix du baril vont-ils enfin baisser dans les mois à venir ? Eh bien ça, malheureusement, seul l'avenir nous le dira. Je terminerai le tour de l'actualité par un autre sujet qui fâche, celui des ZFE. Alors Erwan, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une ZFE ?
Alors, c'est sûrement une zone, mais je sais pas quel type de zone ça peut être.
Eh bien oui, c'est bien une zone à faible émission. Ce sont des zones dans lesquelles, pour limiter la pollution atmosphérique, on vient limiter la circulation des véhicules, on vient restreindre cette circulation, et le fonctionnement est plutôt simple. Hein. Les automobilistes qui veulent rouler dans ces ZFE doivent acheter une petite vignette, hein, la vignette critère, qui correspond à la norme euro de leur véhicule. Par exemple, ma Clio 1,5 litre DCI, diesel, est bien équipé de la vignette critère 3. Alors dans ces zones, les véhicules les plus polluants sont tout simplement interdits à la circulation. Alors la mauvaise nouvelle, tu vas me dire où est-elle ? Eh bien c'est tout simplement que les automobilistes vont voir leur liberté de circuler de plus en plus restreinte, puisque en France, pas moins de 250 municipalités vont être obligées dans les années à venir d'instaurer une ZFE. Alors ces obligations d'instaurer des ZFE, elle est de plus en plus contestée et contestable, et le risque qui va se poser dans les années à venir, ça va être celui de pouvoir continuer à circuler, notamment pour les foyers les plus modestes, mais également pour les étudiants qui, pour la grande majorité d'entre eux, ne peuvent pas s'offrir des véhicules suffisamment récents et donc avec une vignette critère 1 ou 2 qui leur permettra de continuer à circuler. Mais bon, affaire à suivre. Pour continuer sur des choses plus positives, on va passer tout de suite à l'actu des sports.
Bon, fin de saison pour nous Simon, mais début de saison en Formule 1. Et comme chaque année, on a eu le droit au traditionnel ballet des présentations des F1 Made in 2023. Alors on va faire le tour de toutes les écuries avec des critères et des notes de ces F1 à la sauce 2023. En commençant dans l'ordre des présentations. Commençons par l'écurie américaine Haas qui nous a présenté le 31 janvier la VF23. Et honnêtement, l'écurie américaine nous a enfin présenté une belle voiture. Car ces dernières années, entre la voiture aux couleurs russes et la voiture blanche avec un trait rouge, bah on avait les yeux qui piquaient un peu avec Haas. Mais cette année, grâce à leur nouveau sponsor MoneyGram, ils nous présentent une belle Haas blanche et noire, avec toujours ce trait rouge qui passe très bien. Donc pour moi, je lui donne la note de 7,5 sur 10 à cette VF23. On continue avec Red Bull qui nous a présenté en suivant la RB19, mais qui, comme toutes les anciennes Red Bull depuis 2018, n'a pas de livrée qui change. On garde la même pour l'écurie autrichienne qui, comme d'hab, fait copier-coller de la livrée de l'année précédente. Échange 2-3 sponsors, donc pas grand-chose à dire sur cette RB19, et c'est un 4 sur 10 pour Red Bull. Maintenant, passons chez Williams. Oui, on a fait rapide chez Red Bull, mais bon, il n'y avait pas grand-chose à dire. Alors, chez Williams, on nous a présenté la VW45 qui par la même occasion nous a annoncé aussi pour Williams l'arrivée de Gulf et Duracell en tant que sponsor de l'écurie qui remplace donc les sponsors que Nicolas Latifi a porté à l'écurie anglaise. Mais sinon cette VF45 peut laisser entrevoir un copier-coller de la livrée de l'an dernier, mais au final pas du tout. Et ces différents dégradés de bleu la rendent même plus belle que l'an dernier. Ce sera donc un 6 sur 10 pour la VF45. De l'Angleterre, nous allons passer à l'Italie pour Alfa Romeo. Et on peut dire qu'ils nous ont présenté sûrement la plus belle livrée de 2023. Avec ce rouge coupé en deux par cette bande noire qui en fait l'une des plus belles livrées de 2023. Et en plus, ils en ont profité pour nous annoncer l'arrivée de Théo Pourchaire, notre Frenchie de Formule 2, en tant que pilote de réserve pour cette saison 2023. Alors oui, je sais, c'est peut-être parce qu'il y a un Français, mais Alfa Romeo mérite la note pour cette livrée de 9 sur 10. Pour la suite, on va faire rapide, parce que AlphaTauri et leur AT04, bah, je la trouve juste immonde. Donc on va faire du très rapide, et on va passer de suite à la note, c'est un 2 sur 10 pour AlphaTauri. McLaren, maintenant, avec la MCL60, qui est honnêtement similaire à celle de l'an dernier, mais avec un peu plus de noir pour cette voiture, qui sera celle des 60 ans de McLaren en sport auto. Sa note est donc de 6,5 sur 10. Aston Martin, maintenant, qui nous a présenté une AMR 23 similaire à la livrée de l'an dernier, avec les mêmes sponsors, donc peu d'originalité, un peu comme Red Bull, du côté de la marque qui fête ses 110 ans cette année. Bon anniversaire à eux. Le 14 février, maintenant, est le jour du rouge, et il est dominant ce rouge cette année, parce qu'il n'y aura pas d'exception à la règle, car c'est l'heure de la Ferrari qui nous a présenté la SF23, avec une vidéo de présentation où ça a été la seule voiture qui a roulé pour cette présentation. Alors, la SF23, c'est simple, elle est rouge, comme toutes les Ferrari, depuis l'existence de Ferrari, mais elle a quelques teintes de noir sur l'aileron arrière, sur le halo, et sur l'arrière de la voiture au niveau du numéro. C'est simple, c'est efficace, ça leur donne la note de 5 sur 10. C'est une belle moyenne. Mercedes, maintenant, avec la W14, qui revient au noir après une année 2022 passée en argent. Eh bien, les flèches d'argent redeviennent noirs pour cette saison 2023. Ce noir est accompagné de deux traits fins sur les côtés, l'un de la couleur de Petronas, leur sponsor, et l'autre argenté pour rappeler les couleurs mythiques de Mercedes. Mercedes mérite donc la note de 8 sur 10 pour cette W14. Et enfin, on va finir avec un peu de chauvinisme, comme on dit, avec la France et Alpine qui nous a officialisé la 523 en dernier lieu. Et en premier lieu de cette présentation, ils nous ont présenté leur nouvel ambassadeur, qui n'est autre que Zinedine Zidane, légende du football français. Mis à part ça, Alpine nous sort à peu près la même voiture que l'an dernier, avec un petit style à l'arrière qui ne passe pas inaperçu et qui est très beau. Mais mis à part ça, ils nous ont aussi officialisé le fait qu'ils rouleraient sur 3 GP en début de saison, avec leur livrée totalement rose, que je trouve pour ma part immonde. Ce n'est pas l'image d'Alpine, mais bon, on doit faire avec leur sponsor. Et c'est différent de l'an dernier, qu'ils avaient roulé avec deux premiers GP avec cette livrée rose. Ben là, ça sera 3. Et pour ces deux livrées, Alpine récupère la note de 5 sur 10. Maintenant que toutes les livrées sont passées, faisons un rapide passage, hein, très très rapide, sur les essais hivernaux qui ont eu lieu du 23 au 25 février. En résumé, bah, tout ça, on a eu d'énormes rumeurs, hein, qui sont sorties sur des Aston Martin, des Alfa Romeo, qui seraient les voitures les plus rapides du plateau cette saison, et concurrentes au titre, des Red Bull avec aucun rythme de course, Ferrari et Mercedes prêts à se battre pour le titre, Alpine paraît à jouer des victoires. Mais au final, dans tout ça, on n'a vraiment rien de concret dans ces essais hivernaux. C'est pour ça qu'on y passe rapidement, hein. Comme un peu tout le monde qui en parle, on y passe très très vite, parce que bah, il vaut mieux attendre le 5 mars et le premier Grand Prix à Bahreïn pour voir si toutes ces rumeurs étaient vraies ou fausses. Et on va maintenant enchaîner, évidemment, avec les enjeux de cette saison 2023. Bah, pour cette saison 2023, les enjeux, ils sont simples pour certains pilotes. Pour Max Verstappen, c'est d'aller chercher un troisième titre d'affilée avec Red Bull, comme un certain Sébastien Vettel l'avait fait il y a 9 ans avec la même écurie autrichienne. Pour Ferrari, c'est de remporter à nouveau ce championnat qui les fuit depuis 2008. Et avec l'arrivée de Frédéric Vasseur à la tête de l'équipe de Maranello, les yeux vont être rivés sur Ferrari et les comparaisons avec Jean Todt risquent de beaucoup pleuvoir pour le nouveau team principal de l'écurie italienne. Mercedes et Lewis Hamilton espèrent aller chercher un 8e titre pilote qui mettrait définitivement le Britannique devant Michael Schumacher dans l'histoire de la Formule 1. Et pour Alpine, c'est de garder ce statut de 4e force du plateau, et pourquoi pas, grâce à son duo de pilotes 100% français, d'aller chercher une 3e place au constructeur, si évidemment c'est possible. Et pour terminer sur la Formule 1, on va passer à mes favoris. Voilà, je me suis fait une petite catégorie de favoris pour cette saison 2023, donc je vais vous donner mes petits pronostics, et on va commencer avec le champion du monde pilote de cette année. J'avoue, j'ai un peu fait le fou, j'ai misé sur Charles Leclerc dans la dernière course à Abu Dhabi face à Max Verstappen, histoire de se rappeler un peu de 2021.
C'est quand même très très ambitieux, hein.
C'est très très ambitieux, j'espère en tant que fan de Ferrari d'avoir ça, histoire de mettre une petite claque à Verstappen, histoire de se dire bon ben voilà, tu l'as fait mais maintenant on te le fait. Niveau champion constructeur, je verrais bien Ferrari, mais la lutte avec Mercedes et Red Bull va être rude cette saison. Ça va surtout se jouer avec les premiers pilotes, hein, donc Hamilton, Leclerc et Verstappen, mais surtout avec les seconds pilotes, Perez, Russell et Sainz, qui vont jouer un énorme rôle dans cette lutte au championnat constructeur. Au niveau de la victoire surprise, on a toujours chaque année une petite victoire d'une écurie surprise. Je verrais bien Gasly ou Ocon pour Alpine, au vu de l'Alpine et de ce qu'ils nous ont annoncé, ça peut être assez intéressant. Et puis deux pilotes qui ont un sacré bon rythme pour aller chercher la victoire avec une très très bonne voiture. Pour le premier doublé de la saison, on va mettre les paris en place. On aurait pu parier sur, par exemple, Alpine, sur leur victoire surprise, ou sur une autre écurie, sur une victoire surprise. Mais on va être assez classique avec Ferrari ou Red Bull ou Mercedes, mais surtout lors des premières courses de la saison. Je pense qu'un doublé arrivera très très vite cette saison. On n'aura pas à attendre comme en 2021, Monza. Ça sera plus comme l'an dernier où on a attendu, bah, dès la première course, on a eu un doublé avec Ferrari. Et enfin, le flop de cette saison, eh ben, on va se tourner vers l'écurie américaine Haas, hein, qui nous a beaucoup habitués au flop. Et on va se diriger vers le pilote allemand Nico Hülkenberg, qui revient en Formule 1. Et pour moi, je pense que ça va être le flop de cette saison. Ça fait un moment qu'il n'a pas piloté une Formule 1. Il découvre la nouvelle réglementation. Et il va faire une saison complète. Et je pense que ça va être un sacré désastre pour Haas et Gunther Steiner. Pour terminer cette émission Autoradio, il est l'heure de la traditionnelle anecdote.
Ben oui, la traditionnelle anecdote encore et toujours la toute dernière. Alors aujourd'hui, je t'ai préparé d'ailleurs une petite question, Erwan. Est-ce que tu sais quelle est la valeur de la plus grande collection de voitures du monde ?
Bon, on va taper dans le milliard, je pense qu'on est à 2 ou 3 milliards d'euros à peu près.
Alors, tu n'es pas très loin et en même temps un petit peu, parce que la plus grande collection de voitures du monde a été estimée à 4,5 milliards d'euros. Elle appartient au sultan, dont je vais me tenter de m'essayer de prononcer le nom. C'est Brunei Hassanal Bolkiah. J'espère qu'il m'en voudra pas, parce que je pense que j'ai un petit peu écorché son nom. Il possède, d'après les rumeurs, entre 4 et 6500 voitures. La valeur totale de son garage de rêve est donc ainsi estimée à 4,5 milliards d'euros. Alors parmi ses modèles préférés, on peut citer des Lamborghini en pagaille, une McLaren F1 pratiquement de toutes les couleurs, hein, des Mercedes classe S blindées, le Monarque a également tout un attirail de Ferrari, il possède d'ailleurs plusieurs F40, dont des exemplaires avec le volant à droite, et un modèle unique, la FX. Donc des raretés qui attirent l'attention. On retrouve également la Rolls-Royce Silver, recouverte de 24 carats d'or. C'est quand même absolument barjo, estimé à environ 3 millions d'euros. Le SUV Bentley Dominator, construit sur mesure pour le sultan en 1996. Alors si ce sultan est loin devant, il n'est pas le seul amateur de voitures, et on retrouve dans le top une quinzaine de collectionneurs dont on connaît véritablement les détails de la collection. Pour le coup, des personnalités telles que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, David Beckham, mais aussi bien évidemment Lewis Hamilton, qui possède des collections de valeurs assez variables, mais qui dépassent tout le dizaine de millions d'euros.
Bon, pour Lewis Hamilton, c'est pas trop compliqué. Il en pilote déjà des voitures, donc en soi, en collectionner, c'est juste un hobby. Et pour les autres, on le savait aussi. Eh bien, sur ce, ça serait le mot de la fin, là.
Eh oui, Autoradio, c'est déjà terminé. Après 2 ans d'antenne, 1 an à la partager ensemble, Erwan, c'est fini, Autoradio. L'émission se termine aujourd'hui. Alors, on vous remercie, bien évidemment, de nous avoir suivis au cours de ces quelques éditions. Bien, merci à Radio Campus Pau. Et vous pouviez naturellement retrouver la seconde saison de Autoradio sur le site internet de Radio Campus Pau, mais également en podcast sur les plateformes Spotify, et Deezer. À bientôt.